présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Nous avons BDP passé dans les ordinateurs, la biotechnique, etc. Le jeune homme lui dit « Oui, quelques personnes vont d'avant, mais combien restent en arrière? Votre jeunesse ne va pas à l'université pour travailler, mais juste pour manifester, s'exprimer politiquement. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire comme métier plus tard. Ce qui compte, pour eux, c'est avoir une carte d'étudiant pour avoir certaines réductions. » Galien lui dit « Oui, mais maintenant les étudiants vont de plus en plus travailler chez eux. » Le jeune homme lui dit « En Amérique, cela se fait depuis fort longtemps. » Galien lui répond « Oui, mais vous avez des grands territoires. C'est pour cela que ça s'est plus vite mis en route chez vous. » Le jeune homme lui dit « Commence à faire frais. Nous allions boire un petit quelque chose, un café. » Galien lui dit « Oui, je veux bien. » Il cherche un café tranquille. Il en trouve un pas trop loin. C'est un café glacier salon de thé. La salle est grande, meublée, décorée à la 1900. Les serveurs vont viennent en chemise blanche. Un petit orchestre joue. Il y a du monde. Ils trouvent une table tranquille. Le serveur vient vers eux. Galien dit « de café. Et sa voix s'éloigne. Galien dit au jeune homme, je m'appelle Galien Diab. Et moi, Matthew Green. Que faites-vous dans la vie? Galien lui dit, d'après vous. Matthew lui dit, vous êtes étudiant. Non, c'est à fait déjà quelque temps que je ne le suis plus malheureusement. Je travaille, disons, dans les affaires. Ah, vendeur? Le serveur les sert. Merci. Ils en boivent une gorgée. Galien lui dit, je suis le président du groupe Jeune Tout Contre. Je le rie et lui dit, c'est impossible. L'homme le plus puissant du monde ne serait pas là. Ce ne serait pas vous. C'est pas possible. Et vous? Je ne vous crois pas, c'est impossible. Il ne se promènerait pas comme ça. Il ne parlerait jamais à un inconnu. Galien lui dit, eh bien, je vais vous prouver que je suis bien le PGD que je dis. Vous êtes libre ce soir? Oui. Nous allons aller dans mon bureau et vous verrez bien. Je lui dis, c'est un guet-apens. Ce doit être un guet-apens, c'est pas possible. Galien lui dit, vous verrez bien. Si c'en est un, eh bien, j'aurais menti. Matthew lui dit, mon père n'a pas de fortune. Il ne pourra pas me donner de l'argent pour la rançon. Eh bien, tant pis. Vous serez coupé en morceaux. Après avoir bu leur café, ils sortent. Une fois dehors, Galien demande, alors, on y va? Oui. Eh bien, allons-y. Nous allons dans quelle direction? Du côté de l'opéra. C'est là que se trouve mon bureau. Et ils y vont. Arrivé devant l'immeuble, tout de vert du groupe, Galien lui dit, entrons. Et seul à l'interphone, en garde, un livret vient à la porte. Galien lui dit, ouvrez-moi s'il vous plaît, j'ai à aller dans mon bureau.
Bien, monsieur le président.
Et il ouvre la porte. Et ils sont dans le hall. Galien dit au jeune homme, « Prenons l'ascenseur, mon bureau est au 50e étage. » Le jeune homme commence à être intimidé. Il lui dit, « Je ne sais pas si vous dites vrai, mais je ne veux pas vous gêner. » Galien lui dit, « Mais non, vous ne me gênez pas du tout. Venez, nous boirons un verre sur la terrasse. Vous verrez Paris. » La nuit. Et ils entrent dans l'ascenseur. 50e étage. Sortent. Couloir, hall d'entrée, salle d'attente. Et deux grandes portes battantes qui donnent dans le bureau. Il ouvre la porte, entre. Il entre. Grande pièce, baie vitrée. Immense table de bureau en verre avec un plateau montant, descendant sur la table qui apporte l'ordinateur. Téléphone, télésurveillance, coin salon pour les invités avec bar, fauteuil de cuir, table de verre. Un coin pour les placards des dossiers. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est très beau. Alors tu crois que je suis le PDG? Oui, bien sûr. Cela va te faire un très beau souvenir. Viens, allons sur la terrasse. Et il va ouvrir les grandes portes vitrées qui donnent sur la terrasse. Immense terrasse avec jardin suspendu, piscine et petit salon, bar. Ils ont passé la soirée à boire et même à nager parce que la piscine est chauffée. Petit matin, ils se sont quittés. Mathieu lui dit « Merci pour cette merveilleuse soirée. Ma famille ne va pas me croire lorsque je leur dirai. » Petit matin, il retrouve Guillaume au lit dans sa chambre. Il se déshabille. Et se couche. Guillaume lui demande « Où étais-tu ?»«
Ben, c'est la soirée avec un Américain pour lui faire un beau souvenir de France. »
Guillaume lui dit « Et moi, pendant ce temps, je faisais du souci pour toi. » Guillaume lui dit
« Je m'en vais. Je n'avais rien fait.
Juste nager. » Les jours passent. Galien se dit un jour, les intellos de gauche sont de drôles de types. Avec eux, il est interdit de se distraire et dénigre tout ce qu'aime le peuple. Ils se sont appropriés toute la culture, films, livres, chansons, télévision. Avec eux, il est interdit de rire, de se distraire. Il faudrait passer son temps à voir des pièces ou des films sur les camps de la mort, mai 68, les fascistes ou une révolution d'un pays lointain. Les jeunes, après l'école, ou pendant toute une journée, on leur a bourré la tête d'un tas de choses, il faudrait, d'après eux, que la télévision en fasse autant. Ils n'ont pas le droit de s'amuser à regarder des dessins animés, même s'ils sont débiles, ça les détend. Les chansons qui parlent d'amour et de variété française, pour eux, c'est l'horreur. Ils aiment mieux mort au front, etc. Si on regarde bien, ce qu'ils font n'intéresse pas les gens qui devraient aider. Et c'est incompréhensible pour les gens simples. Exemple, le progrès, soi-disant de droite, est plus visible que Libération de gauche pour les gens du peuple. Comment peut-on aider les gens que l'on devrait aider si on dénigre tout ce qu'ils aiment? Puisque tout ce que le peuple aime, c'est de la merde, d'après eux. Ils ne peuvent aider et aimer le peuple. Si on dénigre ce qu'ils aiment, on les dénigre aussi. Les intellos gauchistes sont des pédants qui ne peuvent aimer et aider le peuple parce qu'ils se sentent supérieurs à eux et que c'est eux qui ont la vérité et le bon goût. Les autres ne sont que des cons qui n'aiment pas ce qu'ils aiment. Pour éviter la surpopulation, ils stérilisent une femme sur deux et pas plus de deux enfants. Les chimères et les mutants ne sont pas n'ont pas l'appellation d'humain. Ce sont de purs produits agricolos biotechniques. Ils peuvent être assimilés à des humains. Pas de carte d'identité ni de citoyenneté. Ils n'ont pas de liberté et appartiennent à un propriétaire qui est complètement responsable de tout ce qu'il fait. Pas de liberté ni de droit de regard dans la vie de la cité. Ils sont comme des animaux domestiques. On les élève, on les éduque pour faire certains travaux. On les fait vivre et travailler d'une certaine façon. Mais on peut les tuer sans réglementation. Certaines personnes protestent. Et leur demande des droits de l'homme, dignité humaine, soins, etc. Et surtout une vie décente. et les empêcher qu'ils souffrent. Les tuer avec anesthésie et avoir des médecins pour eux, pour qu'ils puissent avoir le temps pour dormir, le repos, médecine, lieu de vie correct, etc., etc. Une mort digne. On manifeste pour ça. D'autres personnes disent que s'occuper de chimères alors que des gens meurent de faim et n'ont rien, c'est scandaleux. Pontoise, usine production, pour eux, fait de l'alimentation vitaminée et vétérinaire. Plus, il leur fait des vêtements, l'alimentation, c'est des rebuts d'aliments humains, bêtes malades, carcasses d'hommes, fruits pourris, le tout en bouillie. À la télévision, il y a une pub qui dit « Pour que votre chimère ou mouton ait une bonne peau et soit en forme pour le travail, achetez leur Pontoise Alimentation Mutant Luxe. » Et on les voit tous crier de joie en mangeant leur bouillie. Les poteaux sont enfin finis d'être plantés. On commence à les relier avec du ciment. Le poteau a son extrémité une surface plate assez large et on relie chaque plaque avec une couche de ciment spéciale. Puis, on met les tuyaux pour le chauffage. Après, on mettra la terre, les végétaux, les arbres, etc. En même temps, on met en marche des usines pour rendre l'eau de mer douce. Pour les végétaux, la création de canaux, de châteaux d'eau pour les villes, etc., etc. Dahlia a envie de se faire un beau cadeau. Allô? Pouvez-vous dire à M. Danfort de venir me voir à mon bureau, s'il vous plaît? Merci. Entrez.
Vous m'avez demandé, Monsieur le Président.
Oui, venez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aimerais me faire plaisir.
Je vous écoute.
Eh bien voilà, j'aimerais c'est que vous me donniez l'ADN de Rimbaud et que vous fassiez comme pour Pontois. L'enfant lui demande.
Il est où le corps?
Dahlia lui dit. Je crois que la tombe est à Charleville. L'enfant lui dit.
Bien, je vais voir. Mais à qui faut-il demander l'autorisation?
Dahlia lui dit. À personne. Faites-le en cachette, après nous verrons.
Bien, je vais voir. C'est tout, Monsieur le Président?
Oui, vous pouvez disposer.
Merci.
Danfort envoie à Charleville des gens à lui qui trouvent le tombeau de la famille Rimbaud. Dans la nuit, des hommes entrent dans le cimetière, ouvrent le tombeau, prennent le cercueil d'Arthur, le mettent dans le camion pour le ramener à Paris. qui est menée dans la clinique de Ricain. Ricain n'est pas du tout content. Il dit « On me prend pour un croque-mort !» Le cercueil est mené dans la salle d'opération. Et l'on ouvre le cercueil. Bien entendu, il ne reste rien à part les os, un peu de chair et des bouts de tissu. Ricain dit, le crâne est vide, il ne reste rien. Comme cela, la chose est décidée. Il va prévenir Danfort au téléphone dans son bureau. Et Danfort le dit à Galien, qui lui dit « Prenez l'ADN !» Et l'on prend l'ADN et l'on met dans un flacon les os pour les conserver à part. Galien dit à Ricain, j'aimerais c'est aussi avoir un enfant de Rimbaud. Ricain est surpris. Galien continue, vous allez me mettre un peu d'ADN dans mon sperme que je vais vous donner. Et la mère, création artificielle, sans mère, fœtus artificiel. Ricain lui dit, ce sera un clonage de vous alors. Galien lui dit, pas vraiment, puisqu'il y aura de l'ADN de Rimbaud. « Bon, je vais essayer, mais ne croyez pas que vous allez avoir un beau. »« Non, mais nous aurons quelque chose de lui. » Ricain reçoit le sperme de Galien et il met l'ADN de Rimbaud. Puis, il le met dans une couveuse si l'on veut. Mais avant, il a divisé en deux le sperme pour qu'il puisse se réunir. Il ne reste plus qu'à attendre. La couveuse apporte le sang, l'oxygène et la chaleur. Un médecin vient voir en permanence l'évolution du futur fœtus, puis plus tard du fœtus. Danfort dit à Ricain, ce sera un drôle de bébé. Il aura l'ADN de Rimbaud et de Dieu. Je me demande ce que ça va faire. Galien va voir tous les jours son bébé, qui ne ressemble pas à grand-chose au début. dit, je pourrais être papa avec toi. Galien lui dit, la prochaine fois. Guillaume lui demande, est-ce que ton clown sera aussi beau que toi? C'est pas vraiment un clown, celui-là, car il aura l'ADN d'un autre en plus. Les jours passent, le fœtus devient gros et ressemble à un bébé. Riquin dit à Galien,
il faut le sortir de la couveuse et le mettre dans le monde.
Riquin, Galien, Guillaume et même Danfort vont assister à la naissance du petit bébé. Ça se fait plus simplement qu'avec une femme et sans douleur même pour le bébé. L'enfant est dans une couveuse transparente, ce qui fait que l'on voit tout. L'on ouvre la couveuse, l'on débranche, c'est-à-dire on enlève le cordon en plastique qu'on lui a mis au nombril et l'on prend délicatement l'enfant. Le changement de température, l'air, le fait suffoquer et il a froid. Vite, on lui donne une tape aux fesses pour lui donner vigueur. On le frictionne avec du lait dans de l'eau chaude. Puis, on donne l'enfant au père. Il gigote beaucoup, pleure et est tout rouge. Pour le moment, il ne ressemble à personne. Galien est tout ému et gêné. Il a peur de lui faire du mal. Guillaume le regarde. Il a l'air en pleine forme. Félicitations. Merci. Comment vas-tu l'appeler? Arthur, premier prénom. Léonard et Guillaume pour toi. Merci. Galien demande. Comment allons-nous faire pour le nourrir? Riquin lui dit. Nous donnerons le biberon avec du lait vitaminé pour bébé et stérilisé. Galien décide de prendre l'enfant et de le mettre chez lui. Une infirmière s'occupera de lui et Guillaume aussi. On prépare une chambre exprès pour l'enfant. Guillaume demande pendant le dîner. Est-ce que tu vas prévenir tes parents, qui sont grands-parents? Galien réfléchit et lui dit. Je ne sais pas comment ils vont prendre cette nouvelle. Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux pas. Les jours passent et la vie s'organise autour de l'enfant. Guillaume, avant d'aller au travail, va le voir et le soir, il ne sort plus pour rester près de lui. Guillaume, la journée, le veille et lui chante des chansons de sa composition. Les jours passent. L'enfant grandit, forcit. Il a les yeux bleus. Les cheveux blonds ressemblent beaucoup à Galien, mais en même temps, il a dans le regard la forme du visage du Rimbaud. Les premières dents poussent ou sortent un peu en avance. Il est vrai qu'il grandit très vite. Ceci inquiète Galien. Il en parle à Riquin. Riquin lui dit « Tu me manques d'être en bonne santé, c'est l'essentiel. » Son développement intellectuel est aussi plus rapide que les autres. Un après-midi, le téléphone sonne. Guillaume est parti faire les courses. C'est l'infirmière, une femme sèche dans les 30 ans, brune, qui prend l'appareil pour répondre.
Allô ? Je suis bien chez Monsieur Diap, Galien.
Oui, monsieur.
Je suis le papa de Galien. Pouvez-vous me passer mon fils, s'il vous plaît ?
L'infirmière lui dit.
« Monsieur, votre fils est absent. Il est à son travail. »«
Mais où suis-je ?»«
Vous êtes dans son appartement. Je suis la nourrice du petit. »«
De quel petit ?»«
Du fils de votre fils, monsieur. »«
Ah, bon. Merci. »
Le père raccroche le téléphone. Il est au salon et demande à sa femme qui est assise près de lui.
Est-ce que tu sais que notre fils a un fils ?
La mère le regarde.
Bien sûr que non. Qui t'a dit une chose pareille ?
La nourrice du petit.
La mère lui dit.
Il doit y avoir une erreur, car Galien nous en aurait parlé.
Le père lui dit, « Notre fils nous cachait ça. »
La mère lui demande, « Mais la mère, qui est-ce ?»
Le père ouvre les épaules et lui dit,
« Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Une de ces Parisiennes qu'il fréquente ?»
Il soupire. Il fait les 100 pas et dit,
« Ne compte pas pour grand-chose. Dans sa vie, il a un enfant, il nous le dit même pas. »
« Moi, grand-mère, mon Dieu, vais-je m'y habituer ? Suis-je déjà en âge de l'être ? Quel âge me donnez-vous, mon ami ?»
Le mari la regarde, hausse ses épaules et lui dit,
« L'âge d'être grand-mère. »«
J'ai même pas des cheveux blancs. »«
Tu devrais t'habiller un peu moins court et voyant. Tu ne fais pas assez grand-mère. »
Sa femme surprise,
« Tu vas pas m'appeler mémé ?» Ou mamie, que vont passer mes amis? Elles vont se moquer de moi.
Elles se moqueront encore plus de toi quand elles vont apprendre que tu n'es même pas au courant que tu es grand-mère.
Elle soupire et dit, oh, oui, c'est vrai, tout de même Galien, qui aurait cru ça de lui, nous cacher une chose pareille. Que devons-nous faire? Attendre?
Le père lui dit,
c'est pas moi qui ferai le premier pas. Et s'il ne m'en parle pas, je ne lui parle plus. Il ne mettra plus jamais les pieds chez moi.
Sa mère lui dit,
tout de même.
Galien entre chez lui le soir.
Bonjour.
L'infirmière lui dit,
oh, monsieur, une personne a téléphoné et a dit quel était votre père.
Qu'a-t-il dit?
Rien, il voulait vous parler, c'est tout.
Galien se dit, c'est bizarre, il aurait pu me téléphoner à mon bureau, sachant que j'y étais. Je vais lui téléphoner.
Et il sort du salon pour aller à son bureau. Téléphoner à son père.
Il prend l'appareil pour faire le numéro. Allô, je suis Galien. Je vais parler à mon père. La bonne lui dit,
« Fais voir si monsieur est là. »
Bien.
Allô?
Bonjour papa, comment vas-tu? Tu m'as téléphoné tout à l'heure, j'y étais pas. Tu avais quelque chose à me dire?
Le père lui dit,
« Oui, d'avoir tes nouvelles, mais j'en ai eu, merci. »
Galien lui dit, « Qu'est-ce que tu as? Tu es fâché? »
Moi? Fâché? Et pourquoi? Mon fils est bon avec ses parents. Il nous dit tout.
Galien devient tout rouge. Le père lui dit,
tu passeras le bonjour à mon petit-fils. Comment s'appelle-t-il déjà?
Papa.
Le père a raccroché. Galien dit,
merde, merde.
Et sort du bureau pour aller au salon. Oh.
Il retrouve Guillaume et lui dit « Mon père sait pour le petit. Il est furieux. » Guillaume lui demande « Qui a pu le lui dire ?»« Sûrement l'infirmière. C'est elle qui l'a eu au téléphone. » M'a raccroché au nez. « Et ma mère ?»« Je crains, c'est qu'il faut que j'aille à Lyon. » Guillaume lui demande « Tu y vas avec le petit ?»« Non, j'y vais seul. » Guillaume lui demande « Et qu'est-ce que tu vas leur dire ?» Gaïen lui répond « Je crois qu'il vaut mieux que je leur dise la vérité. Ils vont te demander pour la mère. Je leur dirai qu'il n'y en a pas. Ils vont pas te croire. Eh bien tant pis, ils me croiront pas. Bon, j'y vais pour l'engueulade. » Guillaume lui dit « Tu ferais mieux c'est de partir demain matin. Tu vas arriver à Lyon trop tard. » Gaïen regarde sa montre et lui dit « Tu as raison. Je partirai à la première heure. » Et le lendemain, il est parti à la première heure pour Lyon. Arrive à Lyon à 10h. Il va sonner chez ses parents.
Bonjour père, bonjour mère. Et il va vers eux.
Le père lui dit « Que viens-tu faire ici ?»«
Je suis venu m'expliquer avec vous. »
Le père lui dit « M'annoncer la naissance de notre petit-fils, c'est déjà fait. Merci. »
Gaïen lui dit « Je suis navré. »
Son père lui dit « Surtout ne nous dis pas que tu n'avais pas le temps. » Tu as eu 9 mois et plus pour nous le dire.
Sa mère lui dit, ton père a raison. De quoi ai-je l'air, moi? Je ne suis même pas préparée pour être grand-mère. Parce que figure-toi, on n'est pas grand-mère du jour au lendemain comme ça. Moi qui étais une jeune femme et d'un coup de téléphone, je rentre dans le troisième âge. les coups de vieux sont rapides. »
Son mari lui dit « Arrête tes idioties. Tu ferais mieux de t'habiller comme une femme qui a un petit-fils ou une petite fille. »
Elle lui dit « Tu es cruel.
Ce n'est pas moi qui le suis, c'est ton fils. C'est lui qui t'a fait grand-mère. Moi, je me suis contenté de te faire femme. »
Galien lui dit « Je suis navré. » La mère lui demande « C'est un garçon ou une fille ?»
Un garçon. Il s'appelle Arthur Léonard Guillaume. Son père lui demande
« Et c'est tout ?»
Oui.
Sa mère lui dit
« Tu as oublié le prénom de ton père. L'on voit que nous ne comptons pas, nous. »
Galien lui dit « Mais non, mère, j'y ai pas pensé. C'est tout. C'est comme ça. »
Elle lui demande « Il a quel âge ?»«
3 mois. »
« Déjà ?»
Oui. Son père lui demande
« Et tu ne nous as pas informé ? Pourquoi ?»
Galien lui répond « Parce que la chose était compliquée. Très compliquée. Et j'ai eu peur, c'est que vous ne compreniez pas. »
Son père lui dit « Nous ne sommes pas des imbéciles. »
« Je le sais, père, mais il y a des choses compliquées à expliquer. »
« Je suis ton père, et en sais autant que toi. C'est pas parce que tu es PDG que tu dois te prendre pour le super-homme. »
Sa mère lui dit « Et qui est la mère de cet enfant ?»«
Il n'y a pas de mère. » Son père lui dit
« Ah, un enfant abandonné ou pris dans un pays du tiers-monde. »
« Non, père, il n'a pas de mère et est bien de moi. »
Sa mère lui dit « Sa mère l'a abandonné. » Et te l'a laissé, mon pauvre petit.
Non, mère, il n'a jamais eu de mère.
Le père lui dit, la mère est une mère inconnue. Parle franchement.
Galien lui dit, non, père, il n'a pas de mère parce qu'il n'est né qu'avec un père. Il est né artificiellement. J'ai donné mon sperme et on l'a mis, disons, dans une couveuse spéciale.